C'est Radio Fanta, la radio de l'école des Terres Bleues de Fontani.
C'est rigolo.
Oh là là.
Bonjour à tous, c'est Radio Fanta. Aujourd'hui, on va visiter la cathédrale de Mende. Avec Bénédicte du Pays d'Art et d'Histoire.
Mende l'Aude, Angevaudan. Allez, suivez-nous.
La cathédrale aujourd'hui ?
Pour parler de l'architecture.
Pour parler de l'architecture, mais de quelle période ? Parce que vous savez, à chaque fois, on s'était retrouvés pour visiter un monument en rapport avec la période qu'on avait abordée en classe. Et là, la cathédrale, c'est pour parler du...
Du Moyen-Âge.
Du Moyen-Âge, exactement. Et alors, pourquoi on construisait des cathédrales au Moyen-Âge ?
On les construisait pour prier et pour les hommes de l'Église.
C'est ça, vous savez, on en a parlé en classe, au Moyen-Âge, en fait, la religion chrétienne, la religion catholique prend de plus en plus d'importance. Il y a de plus en plus ce qu'on appelle des fidèles, des gens qui croient en Dieu, et donc il faut construire de plus en plus d'églises pour les accueillir, d'accord ? Et les églises, c'est un lieu de prière pour cette religion, d'accord ? Et alors, c'est quoi la différence entre une église et une cathédrale ?
Ben, une cathédrale, c'est plus grand qu'une église.
Voilà. La cathédrale, c'est plus grand qu'une église, mais il y a aussi une autre petite différence. Il y a aussi une question de hiérarchie. Vous savez, dans l'église, il y a des personnes qui sont plus ou moins importantes. Quelle est la personne la plus importante dans la religion ?
Jésus ? Et la mère à Jésus ? Ouais, Marie ?
Non, moi je pensais plutôt aux personnes qui s'occupent de l'église. Encore vivante.
Ah, les prêtres ?
Alors voilà, moi je pensais plutôt aux prêtres, et donc les prêtres ils sont souvent, c'est pas les plus importants, le chef de la religion, souvent on parle du pape, vous en avez déjà entendu parler ?
Oui. Oui,
le pape, donc là il est tout en haut, et en dessous il y a des personnes qu'on appelle les évêques. Est-ce que vous avez déjà entendu parler des évêques ?
Non.
Les évêques ils sont nommés par le pape pour s'occuper en fait d'un territoire, on appelle ça le territoire de l'évêque, on appelle ça un diocèse, c'est un peu comme un département, d'accord ? Et en fait, la cathédrale, ça vient du mot cathèdre, c'était le siège de l'évêque. Donc en fait, la cathédrale, c'est l'église de l'évêque. Et ensuite, eh bien, par exemple, dans les villages, on va avoir des églises plus petites, et ce sont des prêtres qui vont s'occuper de ces églises-là, d'accord ? Voilà pour la petite introduction. Donc nous, ici, à Mende, on a une cathédrale parce que Mende, c'est le centre du diocèse. Et donc, l'évêque habitait à Mende. Son palais, le palais de l'évêque, il était juste à l'emplacement de l'actuelle préfecture. Vous voyez, la préfecture qui est juste ici. Avant, c'était le palais de l'évêque. Il a été détruit, on a construit la préfecture à la place. Mais au Moyen-Âge, l'évêque, il habitait à côté de la cathédrale et il s'occupait de la cathédrale et de son diocèse. D'accord ?
Alors, avec tout ce que tu nous as appris sur l'art romain et l'art gothique, moi, je parie que la cathédrale de Mende, c'est l'architecture gothique, non ? On voit beaucoup de détails, une architecture complexe, et je ne serais pas étonnée de découvrir des clés de voûte à l'intérieur.
Effectivement, la cathédrale, c'est le seul édifice de style gothique de Lozère. On a beaucoup d'églises, mais elles ne sont pas gothiques. Et alors, vous avez remarqué, hein ? Que, comme tu dis, elle est très décorée. Par exemple, la tour clocher qui est au nord, là, celle qui est la plus grande, elle a beaucoup de décorations. On peut même parler du style gothique flamboyant. C'est quand on va sculpter la pierre, rajouter plein de décorations, et on va même y ajouter plein de gargouilles. Vous les avez remarquées ?
Oui.
Voilà. Ce qu'il faut garder en tête, hein, tout au long de cette visite, c'est que la cathédrale de Mende, on va bien commencer à la construire au Moyen-Âge, mais elle a une très très longue histoire.
Elle est immense et on voit beaucoup de vitraux. On a mis combien de temps à la construire, cette cathédrale ?
T'as raison, en fait, le chantier de construction de la cathédrale, il a été très très long, en fait. Et comme je vous le disais, au fil du temps, en fait, la cathédrale, elle va connaître beaucoup de transformations. On commence à la construire au Moyen-Âge, mais au fil du temps, on va la transformer, même en fonction des événements historiques. Elle va même être détruite, reconstruite. Voilà, elle a une longue histoire et elle conserve un petit élément de chaque période. Et en fait, la première église qui a été construite à Mende, ce n'était pas la cathédrale. Avant la construction de la cathédrale, on sait qu'on avait commandé la construction d'une église au cœur de la ville pour se souvenir d'un personnage important pour Mende, en fait, pour se souvenir de Saint Privat. On a construit la première église ici, autour de la tombe de Saint Privat. Mais ensuite, c'est le pape Urbain V, en 1368, qui va commander la construction de la cathédrale.
C'est la statue de Saint Privat devant la cathédrale, parce que nous, on a appris une légende sur l'emplacement de la cathédrale. On raconte qu'on a construit la cathédrale à l'endroit où Saint Privat s'est écrasé après avoir été jeté du haut du cos de Mende dans un tonneau percé de clous.
Alors, vous voulez que je vous raconte la légende de Saint Privat ?
Oui !
Allez ! Alors, en des temps reculés, au cœur du Gévaudan, sur les rives du Lot, d'une légende sacrée naquit la ville de Mende. La tradition populaire nous rapporte l'histoire de Privat, évêque des Gabales, celte des Hautes Terres, qui fut assailli par les barbares. Privat, refusant de livrer son peuple, fut martyrisé, jeté du haut du mont Mima dans un tonneau percé de clous. Dans la vallée, le tonneau se brisa et de ce fracas jaillit une monumentale cathédrale.
Tu peux nous en dire un peu plus sur Saint Privat et sur ce qui lui est arrivé, mais qui sont ces barbares qui l'ont jeté de là-haut ?
L'histoire de Saint Privat, ça s'est passé il y a très longtemps, et c'est une histoire ancienne et on n'a pas beaucoup d'informations, pas beaucoup de textes. Alors souvent on se base sur les écrits d'un historien du Moyen-Âge qui était Grégoire de Tours. Et Grégoire de Tours, il nous dit qu'en fait au 3e siècle, les Gabales, vous les connaissez les Gabales ?
Oui.
Oui. Et les Gabales, ils sont envahis par les Alamans. Les Alamans, c'est un peuple qui venait du nord. Et en fait, le chef des Alamans, il s'appelait Crocus. Il demande à Privat. Privat, c'était en fait le premier évêque qui était là pour évangéliser, on dit, les Gabales. Et donc, Crocus demande à Privat de lui livrer son peuple. Alors Privat, bien sûr, il va refuser et il va essayer de résister, mais malheureusement, on va le prendre, il va être fait prisonnier et il va être martyrisé. Vous savez ce que c'est martyrisé ?
Non.
Ouais, on va le torturer. Et tout ça, ça se passe près du mont Mima, là-bas. Et en fait, donc, Privat va mourir et ensuite, on va construire une église autour de son tombeau pour se souvenir de lui et on dit qu'un culte va naître. D'accord, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui vont venir se recueillir autour du tombeau de Saint Privat.
Saint Privat, est-ce qu'il y a toujours son tombeau à côté de la cathédrale ?
Alors, le premier tombeau de Saint Privat, on ne sait pas exactement où il est, mais il était à l'emplacement de la cathédrale. Ouais.
Mais quelqu'un m'a dit que sous le parking, en fait, c'était un cimetière.
Oui, alors c'est vrai que là, ce que tu appelles le parking, c'est la place qui a été aménagée, c'était un parvis. Hein, je vous le disais, la cathédrale, ça a été beaucoup transformé au fil du temps et même les quartiers qui sont autour, en fait, ça a beaucoup été réaménagé. Et effectivement, devant la cathédrale, c'était beaucoup plus construit et il y avait aussi un cimetière. Et on a déplacé ce cimetière quand on a aménagé le parvis.
C'est qui Urbain V ?
Alors tout à l'heure, vous me demandiez si la statue qui est devant la cathédrale, c'était Saint Privat. En fait, la statue là, c'est pas Saint Privat, mais c'est Urbain V. Et Urbain V, c'est un autre personnage important pour l'histoire de la cathédrale. Alors, parce que ce Urbain V, il est né en Lozère. Alors, il est né en Lozère en 1310 et il s'appelait Guillaume Grimoire. Et il est né en Lozère au château de Grisac, au pont de Montvert. Je ne sais pas si vous connaissez le pont de Montvert ? Voilà. Ensuite, il est né en Lozère, mais il va faire des études, il va quitter la Lozère pour mener sa carrière et il va devenir pape. Donc on a dit, il va devenir chef de la religion chrétienne. Il est nommé pape en 1362 et on lui donne le nom d'Urbain V. Mais donc il va avoir beaucoup d'occupations hors de la Lozère, mais il va toujours garder en tête sa terre d'origine, et c'est lui qui va commander la cathédrale en 1368. Mais il ne va jamais l'avoir terminée parce qu'il va mourir en 1370. Et que vous savez, les chantiers de construction de la cathédrale, ils sont très longs. Et la cathédrale de Mende, elle est commandée en 1368, mais elle sera seulement achevée 100 ans plus tard.
Il y a une salle aussi qui s'appelle la salle Urbain V.
Ben oui, Saint-Privat ou Urbainsac, ce sont des personnages importants et on retrouve plein de lieux dans Mende qui portent ce nom-là pour se souvenir de ces personnes-là.
On sait aussi que la cathédrale de Mende, ça possédait une très grosse cloche qu'on appelait la Nonpareille.
Oui, c'est vrai. Tout ça s'est passé au XVIe siècle. Donc là, on n'est plus au Moyen-Âge. Hein. En 1508, c'est un autre évêque, l'évêque François de la Rovère, qui commande la construction des deux clochers qu'on a devant la cathédrale. Et ces deux clochers, en fait, ils vont être terminés en 1512. Alors, vous avez remarqué, hein, c'est Oussama qui en parlait tout à l'heure, ils ne sont pas égaux, en fait. Le grand clocher, c'est le clocher de l'évêque, qui culmine à 84 mètres, et celui des chanoines, il culmine à 65 mètres. Il est un peu plus petit, et il est un peu moins décoré. Et alors, pour le beau clocher de François de la Rovère, l'évêque, il veut avoir une très belle cloche pour l'installer dans ce clocher. Et alors, on apprend dans les textes, notamment, que, comme tu le disais, qu'en 1516, il y a 180 mulets qui amènent depuis Lyon 600 quintaux de métal pour réaliser trois cloches, dont la fameuse Nonpareille. Alors, 600 quintaux, c'est difficile pour nous aujourd'hui de dire combien de métal ça faisait, mais on sait que c'était très, très important. C'était beaucoup, beaucoup de métal. Alors, les cloches, elles vont être fondues sur place et elles vont être hissées dans le grand clocher en 1517.
On dit qu'on pouvait l'entendre à 15 km à la ronde. Est-ce que c'était la plus grosse cloche de l'époque du Moyen-Âge ? Apparemment, les gens fragiles du cœur et les mamans avec leurs enfants en bas âge se réfugiaient dans les caves quand elle sonnait.
Alors, on ne sait pas si c'est une histoire vraie, mais en tout cas, il y a beaucoup d'histoires autour de cette cloche et ça nous montre qu'elle devait être vraiment importante, qu'elle devait être unique en fait.
C'est vrai que c'était la plus grosse cloche de l'époque du Moyen-Âge, mais pourquoi on a fait une si grosse cloche à Mende ?
Alors, pareil, on ne sait pas vraiment si c'était la plus grosse cloche du Moyen-Âge, mais on sait que François de la Rovère, l'évêque, il souhaitait installer ici la plus grosse cloche de la chrétienté. Et donc là aussi, on a retrouvé dans les textes un petit peu les dimensions, les mensurations de cette cloche. Et on sait qu'elle mesurait 3,25 m de diamètre, 2,75 m de hauteur et 33 cm d'épaisseur. Et on pense qu'elle devait peser entre 10 et 12 tonnes et demi. Donc elle était vraiment énorme. Et en fait, quand on lit ces chiffres, on comprend pourquoi elle s'appelle la Nonpareille. C'était son surnom, puisqu'elle avait été baptisée Marie-Thérèse, mais surnommée la Nonpareille parce qu'elle avait des dimensions hors normes. Et en fait, pourquoi François de la Rovère, il voulait une grosse cloche ? C'était toujours une histoire de prestige pour montrer la puissance des évêques ici à Mende.
Malheureusement, on ne va pas pouvoir la voir. Je crois qu'elle a été détruite par le capitaine Huguenot Mathieu Merle lors des guerres de religion. C'est dommage, je crois même qu'il s'en est un peu servi pour attaquer la ville.
Et oui, tu as raison en fait. Lors des guerres de religion, Mathieu Merle, il va profiter du bruit assourdissant de la cloche lors de la nuit de Noël 1579 pour attaquer la ville et prendre la cathédrale. Il va occuper la ville de Mende jusqu'en 1581 et au moment de quitter la ville, en fait, il va faire écrouler une grande partie de la cathédrale. Et seuls les clochers et les bas des murs du côté nord vont rester debout. Et on sait que pendant son siège, en fait, Mathieu Merle, il va faire fondre la Nonpareille pour en faire des canons et des armes, des couleuvrines.
Mais je crois qu'on peut encore en voir un morceau dans la cathédrale, c'est le bâton. Pourquoi il n'a pas été fondu comme la cloche pour en faire des canons ?
Oui, c'est vrai. Seul le bâton. Le bâton, c'est la partie intérieure de la cloche qui est. On va pouvoir le voir à l'intérieur de la cathédrale. Et c'est seul le bâton n'a pas été fondu parce qu'en fait, il n'était pas fait dans le même métal que la cloche. C'était pas le même alliage et donc il pouvait pas servir à faire des canons. Donc en fait, Mathieu Merle, il l'a laissé. En fait, il l'a pas détruit. Vous avez envie de le voir ?
Oui.
Allez, on y va. Allez, on va voir le bâton.
Let's go.
Let's go.
Est-ce que je prends
une photo de la cloche, d'une cloche? Alors, c'est pas la Nonpareille, parce qu'on n'a pas de photo de la Nonpareille. Mais pour vous faire une idée du bâton...
Ah oui, ça se met comme ça, du coup.
C'est en partie, là.
C'est en fer.
Et oui, tu as touché, tu peux aller toucher si tu veux.
Oui, j'ai touché, c'est pour ça que je me suis dit c'est inverti.
Pourquoi est-ce qu'on n'a pas de photo de la non-pareille? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas la voir en photo?
Enfin, on n'avait pas de choses pour prendre en photo.
Ça n'existait pas les choses électroniques.
Elle est trop vieille en fait.
Elle n'était pas née.
Qui n'était pas née?
Moi.
Bénédicte?
Oui, mais c'est aussi parce qu'il y avait...
Bénédicte n'était pas là pour prendre la photo.
Parce qu'en fait, il n'y avait pas de téléphone, enfin, il n'y avait pas d'électrique, enfin, il n'y avait pas d'appareil électro.
Avant le téléphone, on avait autre chose quand même pour prendre des photos. Alors maintenant, c'est vrai qu'on utilise beaucoup le téléphone pour prendre des photos, mais il y a autre chose qui existe pour prendre des photos. L'appareil photo.
Est-ce que l'appareil photo a été inventé au Moyen-Âge?
Non.
On n'avait pas de technologie au
Moyen-Âge. On n'avait pas d'électricité.
Pourtant, il y a aussi d'œuvres.
Ah, pourquoi il y a autant d'œuvres?
Alors, comme on disait, depuis le Moyen-Âge, la religion, c'est quelque chose de très important. Et les évêques, par exemple, en Lozère, à Mende notamment, ils sont très importants. Ils ont beaucoup de pouvoir, beaucoup de richesses. Et donc, de décorer comme ça la cathédrale, ça montre qu'ils sont très puissants.
Ah, c'est pour ça. Ça tient.
Comment?
Alors pour toi, ça tient aussi du Moyen-Âge. Ça fait il y a plus de 3000 ans.
Comment alors, c'est possible? Toutes les décorations ici ne datent pas du Moyen-Âge. On l'a décoré au fur et à mesure.
Pourquoi on l'a pas dessiné là non pareil?
C'est vrai qu'il existe pas mal de représentations de la cathédrale, mais on n'en a pas retrouvé. On n'a pas retrouvé un dessin de la non pareil. Voilà. Par contre, si vous voulez vous faire une idée, je peux vous donner... Alors, le battant, lui, là, qu'on a devant nous, là, il mesure 2,25 m de haut et il pèse 460 kg.
Oui.
Donc déjà, il est énorme. Imaginez la cloche autour. Et alors, si vous voulez vous faire une idée, regardez, on se déplace dans la chapelle qui est juste à côté. On va élever un peu les yeux.
On dirait l'endroit où elle a été la cloche.
Vous arrivez à vous repérer un petit peu? On est en bas du grand clocher. Et ce rond ici, en fait, c'est pour vous donner une idée de la taille de la cloche. En fait, on a dû la hisser comme ça. Il faut imaginer qu'il était vide. Hein. On a dû la hisser par là. Et donc, ça vous donne une idée de la grandeur de cette cloche. Elle était énorme.
Elle est où la cloche maintenant? Là, elle est où la cloche?
Alors, aujourd'hui, hein, là, non, pareil, elle n'existe plus. Mais effectivement, il y a d'autres cloches. Et elles sont toujours dans le grand clocher là-haut.
On a de la chance de pouvoir voir ce magnifique orgue parce que je crois qu'ils ont eu chaud aux fesses. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé.
Et oui, t'as raison Jordi, c'est vrai que les orgues, elles ont vraiment eu chaud. Mais l'orgue de la cathédrale de Mende, il est vraiment magnifique et il a une longue histoire en fait. Il faut savoir que le premier orgue, il a été construit ici au XVIIe siècle par des facteurs d'orgue, des fabricants d'orgue qu'on appelait les frères Eustache et qui étaient à Marseille. Ensuite, l'orgue, on va le compléter au XVIIIe siècle. Et jusqu'au XIXe siècle, on va le restaurer, l'améliorer et l'agrandir. Mais c'est vrai qu'il a eu chaud parce que durant la Révolution française, hein, vous savez qu'il s'est passé énormément de choses. Et à Mende, le peuple a envisagé de brûler l'orgue. Mais l'organiste, le musicien qui s'appelait Antoine Sauvage, pour sauver l'orgue, il a joué la Marseillaise. Et donc l'orgue a été sauvé. Vous avez envie de faire un petit jeu?
Oui.
À votre avis, il y a combien de tuyaux? En fait, tu as vu un orgue, en fait, c'est une sorte de grand piano avec des claviers, des pédales, et le son, il se diffuse, il sort par ces grands tuyaux en métal. Alors, à votre avis, il y a combien de tuyaux vous le savez? Ou vous voulez jouer? Alors, dis-moi.
233.
Un peu plus.
260.
Beaucoup plus.
1500.
Plus.
3000.
Moins de 3000. Allez, je vous le dis. 2328 tuyaux.
Wow.
Et vous comprenez en fait, hein, le son, on a vu que la cathédrale elle était immense et le son il se diffuse comme ça dans ce grand espace et ça fait une musique très très belle.
maintenant, on va aller voir la Vierge Noire.
Et je voulais qu'on observe un petit peu ce vitrail. Est-ce que vous... Alors, la cathédrale, il faut savoir qu'elle a été consacrée sous le nom de Notre-Dame et Saint-Privat. D'accord ? Et alors, est-ce que vous arrivez à comprendre ce vitrail ? Qu'est-ce qu'on voit ?
Ben, c'est quand Jésus y naît que ben, y a des gens qui lui donnent de l'or et tout ça.
Ah. Tu crois que c'est ça ? Alors, en l'observant, est-ce que vous, qu'il y a quelqu'un qui veut bien me décrire ce qu'il voit ? Dis-moi.
Moi, j'ai l'impression que dans les mains de Jésus, il y a une cathédrale.
On voit quelqu'un qui est agenouillé, qui porte une sorte de cape et un chapeau, et qui tient dans ses mains, effectivement, une cathédrale. Est-ce que vous n'avez pas déjà l'impression de l'avoir vu, ce personnage ?
C'est Urbain V.
Oui, c'est ça. En fait, ce vitrail, il représente bien Urbain V qui décide de la construction de la cathédrale et qui l'offre à Notre-Dame.
Mais Urbain V, on le reconnaît avec sa couronne un peu.
Et oui, ça, c'est vraiment le costume traditionnel des papes. Tous les papes sont représentés, sont habillés comme ça, avec cette espèce de coiffe et cette cape.
C'est elle la Vierge Noire ? Une légende raconte qu'elle aurait dû être brûlée, mais qu'une femme aurait demandé cette vieille souche de bois pour allumer son feu, ce qui l'aurait sauvée de la destruction.
Oui, c'est vrai, c'est elle, la Vierge Noire. Et alors, voilà, si on la décrit, vous voyez que c'est une statue qui a été sculptée dans du bois d'olivier. Et on pense qu'elle date probablement du XIIIe ou du XIVe siècle. Donc elle date vraiment du Moyen-Âge. Et cette Vierge Noire de la cathédrale de Mende, elle appartient à la tradition des Vierges Noires d'Auvergne. Hein. On retrouve plusieurs Vierges Noires autour de la Lozère. Hein. On en a dans plusieurs églises de Lozère. Je pense notamment à l'église de la Rouvière, l'église de Saint-Bosile. On peut même en voir une au musée du Gévaudan. Mais peut-être que la plus connue hein, des Vierges Noires, c'est celle du Puy-en-Velay, en Haute-Loire. Mais c'est vrai que, hein, on l'a vu aujourd'hui avec ce reportage dans la cathédrale, il y a plein d'histoires et plein de légendes autour de la cathédrale. Et en fait, on sait que cette Vierge Noire, normalement, à l'origine, elle portait un enfant sur ses genoux et elle avait une robe argentée. Voilà. Mais voilà, elle a échappé à la destruction parce qu'au moment des pillages des guerres de religion, eh ben, la Vierge Noire, elle aurait dû disparaître comme beaucoup d'objets. Elle aurait dû être détruite, voilà, comme beaucoup d'objets de la cathédrale. Et il y a une légende qui raconte qu'une dame qui passait par là, au moment où on détruisait tous les objets, aurait dit « Ah ben donnez-moi ce bout de bois là, comme ça je vais m'en servir pour allumer ma cheminée ». Mais en fait, elle savait très bien que c'était une Vierge Noire et comme ça, elle l'a sauvée.
Pourquoi elle a la peau noire ?
Alors, on ne sait pas exactement pourquoi ces Vierges Noires, parce qu'il y en a plusieurs, ont la peau noire. Il y a plein de gens qui ont imaginé des explications, mais on ne sait pas pourquoi. Alors, le bois d'olivier, c'est un bois qui est foncé. Il y en a certaines qui ont été peintes avec de la peinture noire. On ne sait pas vraiment.
Et pourquoi ils voulaient la jeter ?
Ben, tu sais, Célie, ça c'était au moment des guerres de religion. C'était une guerre entre les protestants et les catholiques. Et les protestants, en réaction avec la religion catholique, ils voulaient effacer toutes les représentations, notamment de la Vierge. Et donc, on détruisait les Vierges Noires. Les protestants ont aussi détruit beaucoup d'églises en Lozère.
C'était Radio Fanta, à la prochaine sur 48 FM.
Merci.
Radio Fonta, une émission proposée avec le soutien du ministère chargé de la ville, le préfet de la Lozère, dans le cadre du quartier prioritaire de politique de la ville, quartier 2030.